Bon matin tout le monde. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas déjà, je me présente, je m'appelle Pierre-Étienne, puis je suis un des pasteurs en formation ici à l'Église de Sentier. Ça fait déjà une semaine que les Jeux olympiques d'hiver sont commencés. Puis je ne sais pas s'il y en a plusieurs là, comme moi, mais je fais partie de ceux qui attendent pas mal à chaque fois, là, avec beaucoup d'impatience, les prochains Jeux olympiques, qui aiment vraiment beaucoup ça les regarder. Je suis votre ami là, qui, pendant l'espace de 2-3 semaines, devient soudainement là, un expert du curling ou du bobsleigh, du triple axel en patinage artistique, même si, je vous avoue, je ne sais même pas bien freiner sur une patinoire. J'ai toujours aimé ça, regarder les Jeux olympiques. J'aime regarder les performances, le dépassement, le sacrifice des athlètes, mais aussi leur histoire de résilience, de persévérance, de solidarité. J'aime aussi être témoin de ces moments-là spéciaux, ceux qui marquent notre imaginaire, ceux dont on parle pendant plusieurs mois, même plusieurs années après. Le but en or de Sidney Crosby à Vancouver, ou Joanie Rochette qui a gagné le bronze en patinage artistique 2 jours seulement après la mort subite de sa mère. Ou plus récemment, aux Jeux olympiques de Paris, la récolte record de médailles en natation de Summer McIntosh, ou la médaille d'or du relais 4x100 mètres chez les hommes. Donc, la fin de semaine dernière, vous faites sûr que je regardais comme très attentivement la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques qui, cette année, sont à Turin, en Italie. Et non, pas à Turin, en Italie. Ça, je recule d'une trop d'années. Mais en Italie, à Milan. Pendant que les athlètes défilaient les uns après les autres, derrière le drapeau de leur pays, on pouvait vraiment voir la fierté dans leur visage, la fierté de représenter leur pays. Pour eux, c'est vraiment comme un honneur de pouvoir le faire devant des centaines de millions de téléspectateurs. C'était vraiment une fierté de pouvoir représenter leur pays, puis c'était aussi un privilège qu'ils ont mérité après des années d'efforts, de travail. Que ton règne vienne, cette année, c'est notre thématique pour Libération 21. On parle du royaume de Dieu. Puis en regardant ces athlètes aux Jeux olympiques, on peut se demander, comment est-ce que moi aussi je peux représenter le royaume de Dieu sur terre? Qu'est-ce que ça veut dire même de représenter un royaume qui n'est pas limité par des frontières terrestres, par les cultures, par les langues, par les époques? Il y a 2 semaines, un royaume au cœur du chaos, Alexandre nous a parlé de comment Dieu est venu établir son royaume à travers l'histoire, comment il est venu établir son royaume sur terre, puis comment est-ce qu'il l'a rendu accessible d'une manière qui est vraiment surprenante. On a vu comment ce royaume maintenant est accessible pour nous tous, pour toutes les nations de la terre. La semaine dernière, Dominique nous a parlé de ce roi parfait. Il nous a présenté Dieu comme ce roi du royaume, ce bon roi qui mérite qu'on lui offre toute notre existence. Puis aujourd'hui, on va terminer en abordant cette question. Comment est-ce que je peux représenter le royaume de Dieu sur terre? Est-ce que c'est même possible, accessible? Ou est-ce que comme ces athlètes qui ont défilé là, derrière le drapeau de leur pays, c'est quelque chose qui est seulement réservé comme à l'élite, aux meilleurs, à ceux qui auraient des années de travail puis d'expérience dans leur relation avec Dieu ou dans leur foi? Qu'est-ce que ça veut dire de représenter le royaume de Dieu au quotidien? Est-ce que je représente seulement le royaume de Dieu là, quand je brandis bien fort comme un drapeau mes croyances chrétiennes, quand je partage l'évangile dans un parc, que je publie mes convictions chrétiennes sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que ça veut dire quand je suis juste au travail, avec ma famille, que je remplis mon rapport d'impôt, que je pose les briques sur un nouveau condo? Qu'est-ce que ça veut dire quand je vis des conflits familiaux, que je prends soin de mes parents malades, quand je fais du sport avec mes amis, ou même quand je fais de la peinture, de la musique, tout seul dans ma chambre? Pour examiner ces questions-là ce matin, j'aimerais lire un passage de la parole de Dieu. Donc, dans le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 5, on va lire ensemble les versets 17 à 21. Donc, 2 Corinthiens 5, 17 à 21. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Évidemment, au prochain Jeux olympiques, il n'y a aucune chance que je représente l'Espagne, le Brésil ou le Japon. Puis là, ça n'a aucun lien avec mes capacités athlétiques, mais je ne suis juste pas un citoyen espagnol, un citoyen japonais ou un citoyen brésilien. De la même manière, c'est impossible de représenter le royaume de Dieu sans devenir un citoyen du royaume de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Pour représenter le royaume de Dieu, il faut commencer par en faire partie. Il faut devenir une nouvelle créature. Comme Alexandre nous l'a expliqué il y a 2 semaines, l'être humain, dès sa création, devait déjà être le représentant de Dieu sur terre. Il devait déjà faire partie de son royaume. On devait interpréter le monde autour de nous, apprendre à le connaître, le développer pour son épanouissement, puis le diriger de manière bienveillante, à l'image de Dieu, puis pour sa gloire. Malheureusement, Adam et Ève, puis tous les êtres humains depuis ce jour-là, on n'a pas voulu se soumettre au règne de Dieu. On a plutôt voulu bâtir nos propres royaumes, décider pour nous-mêmes ce qui était meilleur pour nous. C'est ce que la Bible appelle le péché. Cette rébellion-là contre Dieu, elle a brisé notre relation avec lui. Mais ça a aussi eu des conséquences dramatiques sur toutes nos autres relations, bien au-delà de seulement notre relation avec Dieu. Ça a eu des conséquences sur notre relation avec nous-mêmes, notre relation avec les autres, puis même notre relation avec le monde. On peut encore le voir aujourd'hui. Il y a de l'exploitation, de la destruction, des abus, de la polarisation, des divisions, des guerres. Tout ça, c'est les conséquences d'une humanité qui a rejeté Dieu, qui est prête à faire beaucoup de choses pour favoriser la construction de son propre royaume aux dépens de ceux des autres. Puis c'était pas du tout l'intention que Dieu y avait au départ pour l'humanité. Le péché, ça a brisé notre relation avec Dieu, ça nous a exclus de son royaume. On reste quand même des êtres humains créés là, à son image, à l'image de Dieu. Chacun d'entre nous, on a une immense valeur. Mais maintenant, c'est comme si cette image de Dieu à l'intérieur de nous était brisée, elle s'était tordue. On la reflète, mais d'une façon qui est souvent déformée. On avait besoin d'un nouveau départ. On avait besoin d'une réconciliation avec notre Créateur qu'on a rejeté. Puis Dieu aurait pu nous laisser à nous-mêmes ou décider de nous détruire, mais parce qu'on a un Dieu qui est plein d'amour, de grâce puis de compassion, il a plutôt choisi la réconciliation. Dieu a mis en œuvre un plan de sauvetage pour que, comme on peut le lire au verset 19, il puisse réconcilier le monde avec lui-même et ne pas charger les hommes de leurs fautes. Puis ce qui est incroyable avec cette réconciliation-là que Dieu nous offre, c'est qu'elle vient complètement de Dieu. Au verset 18, on peut lire « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. » Même si c'est nous qui avons offensé Dieu, même si c'est nous qui avons brisé notre relation avec lui, c'est quand même lui qui a pris l'initiative. C'est lui qui a pris l'initiative pour rétablir sa relation avec nous. Puis non seulement ça, c'est aussi lui qui a décidé de payer le prix nécessaire pour qu'on puisse rétablir notre relation avec lui. Parce que vous voyez, la réconciliation, c'est jamais gratuit. Si je rentrais chez mes parents ce soir pour voler leur carte de crédit puis ils me payaient un voyage de 5 000 $ dans le sud, ça serait sûrement pas suffisant de juste aller m'excuser par la suite. Pour qu'il y ait même une possibilité de réconciliation comme qui est réelle, il faudrait probablement que je leur rembourse 5 000 $ en plus de leur demander sincèrement pardon. Puis maintenant, parce que Dieu est juste, c'était la même chose. Il ne pouvait pas juste décider de ne pas charger les hommes de leurs fautes, que personne paye pour la destruction qu'on a causée. Il devait avoir un coût qui était payé. Il devait avoir un coût qui était payé pour que la réconciliation soit possible. Mais Dieu savait aussi qu'on n'était pas capable de payer notre 5 000 $. Donc, c'est Dieu lui-même qui a décidé de payer notre dette. C'est pour cette raison que Dieu est venu sur terre. Le Créateur de l'univers, il a décidé de s'incarner comme un être humain. Puis Jésus a vécu une vie parfaite. Il a été le représentant parfait de l'image de Dieu au milieu de nous. Il a fait ce que nous, on n'avait jamais été capable de faire. C'était le seul qui ne méritait pas d'avoir des relations brisées. Des relations brisées avec les autres, des relations brisées avec Dieu. Puis pourtant, elles vont toutes être brisées. Ses relations avec les autres vont être brisées quand son peuple va le rejeter puis le traiter comme un criminel. Puis surtout, sa relation avec Dieu va être brisée quand sur la croix, Jésus va payer le prix de tous nos péchés. Au verset 21, on peut lire « En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. » Sur la croix, Jésus est devenu mon représentant. Il a échangé sa vie pour la mienne. Jésus a pris sur lui toute la souffrance du monde, toutes les conséquences de notre péché, pour qu'en échange, il puisse nous donner sa justice, sa perfection, sa vie. Maintenant, la réconciliation avec Dieu est non seulement possible, mais est gratuite, est accessible. Le roi nous lance à tous exactement le même appel. Soyez réconciliés avec moi. J'ai tout fait pour que tu sois réconcilié avec moi, pour que tu puisses marcher à nouveau dans mon royaume, faire partie de mon peuple. Ce n'est pas quelque chose que tu dois mériter. Ma réconciliation est complète. C'est quelque chose qui est tout accompli et très juste à l'accepter, à la recevoir dans ta vie. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Ici, il y a un détail là, quand même, linguistique qui est quand même intéressant dans le texte original en grec, mais qui se traduit un petit peu mal en français. Ça ne se voit pas nécessairement au premier coup d'œil. Mais le verbe « soyez réconciliés » en grec, il est à la forme passive. Ça veut dire que ce n'est pas une action qu'on doit faire, mais que c'est une action qui est plutôt subite. Par exemple, si j'utilise la phrase « un étudiant est instruit par son enseignant », on comprend facilement que l'étudiant doit, oui, là, c'est vrai, accepter d'être instruit. Il peut faire des choses pour être mieux instruit, plus attentif. Mais dans cette phrase-là, ce n'est pas lui qui fait l'action d'instruire. C'est plutôt qu'il l'a subi. De la même manière, le message ici, ce n'est pas qu'on doit aller se réconcilier avec Dieu, qu'on doit faire une série d'actions, de choses pour arriver à la réconciliation. Mais c'est plutôt l'annonce de ce qui a déjà eu lieu, de ce qui est déjà complet. C'est une invitation à accepter ce que Jésus a déjà accompli pour nous, à juste subir, entre guillemets, sa réconciliation pour nous. Puis si on est réconcilié avec Dieu, ce passage nous dit que nous sommes maintenant une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, regardez, toutes choses sont devenues nouvelles. Non seulement Dieu initie la réconciliation avec nous, non seulement il en paye le coût, mais il nous inclut à nouveau dans son royaume. Il fait de nous son peuple. Il promet de nous transformer pour qu'on puisse à nouveau représenter de mieux en mieux son image autour de nous. Puis si tu fais partie du royaume de Dieu, maintenant tu es aussi un ambassadeur pour Dieu, un représentant de son royaume. Au verset 20, on lit « Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ ». Si tu es réconcilié avec Dieu, ça fait partie de ta nouvelle identité, ça fait partie de qui tu es. Contrairement aux Jeux olympiques, là, où c'est réservé aux meilleurs de chaque discipline, être l'ambassadeur de Dieu, ce n'est pas réservé aux chrétiens que tu considères meilleurs que toi. Ce n'est pas réservé aux pasteurs, ce n'est pas réservé aux missionnaires aux quatre coins du monde. Si tu es devenu chrétien, tu es aussi le représentant de Dieu. C'est non seulement possible puis accessible, ça fait partie de qui tu es. C'est ton identité. À l'époque de l'Empire romain, le concept d'ambassadeur était assez semblable à celui qu'on a encore aujourd'hui. On les appelait les légats. Du même mot latin, là, on tire les verbes député ou délégué. C'était des citoyens envoyés officiellement par le Sénat ou par l'empereur auprès des autres nations ou même à l'intérieur là, de l'Empire auprès des autres provinces. Ils étaient directement chargés d'une mission précise qui pouvait être diplomatique, militaire, administrative. C'était souvent des bons orateurs, des bons stratèges militaires, mais surtout des bons politiciens pour être capables de négocier avec les autres nations. C'était sérieux parce que dans le fond, en tant qu'ambassadeur, tu étais le représentant officiel de Rome, le délégué officiel de son autorité. Un traité là, qui était signé par un légat, c'était l'équivalent d'un traité signé par l'Empire. Puis à l'inverse, un geste de violence qui serait commis envers un ambassadeur, un légat, c'était une déclaration de guerre envers tout l'Empire romain. En résumé, on peut dire qu'un ambassadeur, c'est quelqu'un qui doit représenter celui qui l'a envoyé, puis qui est délégué pour une mission spéciale. L'apôtre Paul, qui a écrit ces versets aux chrétiens de la ville de Corinthe, il les compare à des ambassadeurs, puis nous aussi, il nous compare tous à des ambassadeurs, parce qu'on représente, nous aussi, une autre personne que nous. Puis on s'est fait déléguer une mission particulière. Ce passage nous dit qu'on est ambassadeur pour Christ, donc on représente Jésus. Puis la mission qui nous a été confiée, comme on peut le lire au verset 18, c'est le ministère de la réconciliation. Dieu nous offre le privilège de participer à son plan de rédemption pour le monde avec lui. Le ministère de la réconciliation. Dans une autre lettre écrite par l'apôtre Paul, donc la lettre aux Colossiens, au chapitre 1, verset 20, on peut lire que Dieu a voulu, par Christ, tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Dieu, il cherche une réconciliation qui est relationnelle avec nous, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus large, c'est beaucoup plus grand. Dieu, il cherche à réconcilier tous les aspects de nos vies, puis tout le monde avec lui, toute la création. Oui, ça commence par une réconciliation relationnelle avec Dieu, mais c'est juste le début de la transformation. Le ministère de la réconciliation, représenter le royaume de Dieu autour de nous, c'est un message, mais c'est surtout quelque chose de visible puis de concret dans nos vies. Comme je l'ai mentionné plus tôt, le péché nous avait séparés relationnellement de Dieu, mais les impacts du péché ils sont beaucoup plus grands que ça. Il y a eu beaucoup plus de conséquences. Le péché a contaminé notre relation avec nous-mêmes. On se voit rarement avec toute la valeur que Dieu nous a donnée. On se dénigre souvent. Puis après ça, on va aller rechercher cette valeur-là ou notre confort, notre approbation dans toutes sortes d'autres choses matérielles, dans toutes sortes d'autres personnes qu'en Dieu. Le péché a contaminé notre relation avec les autres. Les autres aussi, on les voit rarement avec toute la valeur que Dieu leur a donnée. Puis ça apporte toutes sortes de jugements, de conflits, d'abus. Le péché a contaminé notre relation avec le monde. Le travail est difficile, l'environnement est exploité, les souffrances, les maladies, les injustices sont omniprésentes autour de nous. Tout ça, Dieu veut aussi le restaurer. Il veut le restaurer dans ma vie, il veut le restaurer dans ta vie, puis il veut le restaurer dans le monde. À la fin des temps, on croit que quand Jésus va revenir, il va terminer de restaurer la création. Toutes les choses qui avaient été tordues par le péché, ils vont être rétablies, ils ne seront plus jamais présentes. Mais Dieu, il fait aussi ce travail-là maintenant. Il fait ce travail-là dès aujourd'hui, puis il veut le faire à travers nos vies. C'est intéressant, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11, on peut lire cette histoire de Jean-Baptiste qui est en prison. Il va bientôt mourir, donc il envoie deux de ses disciples pour parler avec Jésus. On peut un peu comprendre qu'il s'inquiète, là, qu'il doute un petit peu. Et comme, « Hey Jésus, est-ce que tu es vraiment le Messie qu'on attendait? Est-ce que tu es vraiment le Sauveur du monde? Est-ce que tu es vraiment venu pour établir le royaume de Dieu? Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » Il commence à douter. Il attendait un roi qui allait venir conquérir les Romains. Puis pourtant, lui, il était encore en prison. Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Ici, Jésus fait référence à une prophétie de l'Ancien Testament qui le concerne, mais il est aussi en train de dire à Jean-Baptiste, « Regarde, c'est réel, c'est concret. Le royaume que j'annonce, c'est plus que juste des mots, des paroles en l'air. C'est plus que juste des belles paroles. C'est un message qui peut se voir, qui peut se toucher. Le royaume de Dieu, il est réel parce qu'il y a vraiment des vies qui sont transformées devant nos yeux. Dieu, il veut guérir ce que le péché a brisé. Il veut restaurer ta relation avec toi-même, ta relation avec les autres, avec l'argent, il veut restaurer tes priorités, ta famille, ton quartier. En tant qu'ambassadeur du roi des rois, on a la chance de pouvoir participer à ça. Le royaume de Dieu devient visible quand il y a des relations qui sont restaurées, quand on apporte un peu plus de réconciliation, d'harmonie autour de nous, dans nos vies ou dans le monde. L'Évangile, la bonne nouvelle de la réconciliation, c'est beaucoup plus que seulement un message parmi tant d'autres. C'est pas une invitation abstraite, vide ou désincarnée, là, quelque chose qui aurait aucun rapport avec notre propre vie. C'est un message qui transforme tout, à commencer par nous-mêmes. Maintenant, c'est vrai que je ne vis pas encore parfaitement comme un représentant de Dieu. Je n'agis pas toujours comme un bon ambassadeur. C'est un concept qu'on appelle le « déjà pas encore » parce que je suis déjà réconcilié avec Dieu, il me donne déjà ma nouvelle identité, mais je ne le vis pas encore pleinement dans tous les aspects de ma vie. J'ai encore des relations brisées, je vis encore dans un monde qui est brisé, puis j'ai encore besoin que Dieu me transforme à chaque jour. Donc, un des meilleurs moyens de représenter le royaume de Dieu, c'est en me laissant être transformé. C'est en démontrant la réalité de la réconciliation de l'Évangile dans ma propre vie. Que ton règne vienne. C'est un extrait de cette prière enseignée par Jésus dans Matthieu 6. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quand je prie que ton règne vienne, la première personne concernée, c'est moi. La première chose à laquelle Dieu s'adresse, c'est au cœur de celui qui prie. Même si je fais partie du peuple de Dieu, quelle partie de ma vie est-ce que je refuse encore de lui donner? Quelle partie est-ce que je refuse de donner au roi? Sur quel aspect de ma vie est-ce que je cherche encore à garder le contrôle plutôt que de le laisser à Dieu puis de le laisser transformer ma vie? En tant qu'ambassadeur de Dieu, on veut toujours continuer à appliquer le ministère de la réconciliation à notre propre vie en premier. On veut garder cette attitude d'humilité devant Dieu puis devant les autres parce que je suis le premier qui est brisé, le premier qui a besoin de grâce puis qui a besoin de la restauration de Dieu dans ma vie. Je ne suis pas ambassadeur de Dieu parce que je le mérite plus pour mes performances incroyables, mais seulement à cause de Jésus puis de ce que lui a fait. Puis pendant que ma propre vie est transformée, je vais représenter le royaume de Dieu en pointant les autres vers lui, en pointant les autres vers le caractère, vers l'œuvre de Jésus autour de moi. Pendant que ma vie est transformée, alors même que ma vie est transformée, je vais incarner de plus en plus le message de la réconciliation. Je vais l'incarner en parole puis en action. Plus ma vie est transformée, puis plus je vais chercher à bâtir le royaume de Dieu plutôt que bâtir le mien. Plutôt, on a défini un ambassadeur comme une personne qui doit représenter celui qui l'a envoyé, qui est délégué pour une mission spéciale. Peu importe où on vit, peu importe notre stade de vie, peu importe notre travail, si on est chrétien, on a la même mission. David Bosch, un théologien sud-africain qui a beaucoup écrit sur la mission de l'Église, il a écrit ceci: « La mission, c'est plus, c'est différent que le recrutement à notre genre de religion. » La mission, c'est alerter le monde au règne universel de Dieu par Christ. La mission, c'est à la fois l'annonce puis la manifestation du règne de Dieu. Quand je reflète le caractère de Dieu autour de moi, quand son règne se manifeste par mes actions, je suis en train de remplir la mission de Dieu. En tant que citoyen du royaume, on veut suivre l'exemple de notre roi. Puis c'est ce qu'il a fait. Jésus, il est venu sur terre, il est venu incarner la bonne nouvelle. Il ne l'a pas seulement annoncé, il l'a vécu. Puis là, peut-être que certains d'entre vous, vous pensez déjà à votre vie bien remplie, au temps puis à l'énergie qui manque souvent juste pour arriver au bout de la semaine ou pour être assis devant moi ce matin. Vous dites peut-être que représenter le royaume de Dieu, ça semble un peu trop lourd, un peu trop gros. Je peux vraiment comprendre que ça soit le genre de sentiment qui vous habite ce matin. Mon objectif, ce n'est pas de vous culpabiliser ou de vous mettre un fardeau supplémentaire. Au contraire, mon objectif, c'est de vous encourager en vous montrant que c'est possible d'être un ambassadeur de Dieu. C'est de vous montrer que représenter le royaume, ça concerne beaucoup plus ta vie de tous les jours, tes habitudes, que n'importe quel grand projet ou quelle grande initiative que tu pourrais ajouter. On a plusieurs personnes de notre église qui sont au Guatemala en ce moment. Moi-même, je suis allé l'année dernière. C'est un super beau projet, c'est une super belle manière de représenter le royaume de Dieu là-bas. Mais mon objectif ce matin, c'est pas qu'on soit 300 à participer au voyage l'année prochaine. On représente pas juste Jésus quand on part en voyage missionnaire ou quand une fois par année, on se met ensemble pour ramasser de l'argent pour des paniers de Noël puis soutenir des familles de Gatineau. L'athlète olympique, il représente pas juste son pays pendant la cérémonie d'ouverture ou quand il est en train de tenir un drapeau ou même quand il est en train de compétitionner. Il représente son pays pendant toute la durée des Jeux, dans tout ce qu'il fait, partout où il va. De la même manière, je suis le représentant du royaume de Dieu, oui, dans les grands projets, les grandes choses, mais surtout dans les petites choses de la vie quotidienne. Tu n'as pas besoin de sortir de ton quotidien pour pouvoir représenter Dieu, pour pouvoir être son ambassadeur. Au contraire, Dieu veut que tu le représentes au cœur de ton quotidien. Laissez-moi vous donner quelques exemples, mais je pourrais continuer la liste à l'infini, c'est tellement vaste. Et quand tu choisis de répondre avec douceur à un commentaire désagréable de ton collègue ou de ton conjoint, tu représentes la patience puis la douceur de Dieu. Quand tu décides d'offrir le pardon puis la réconciliation à quelqu'un qui t'a blessé, ou même que tu agis comme médiateur entre deux personnes qui se réconcilient, tu représentes le caractère de Dieu. Quand tu prends le temps d'écouter ton enfant qui a passé une journée difficile à l'école, quand tu prends soin d'un proche malade, tu représentes le royaume de Dieu. Quand tu traites une personne qui est un peu mise de côté par les autres avec de la dignité, de la valeur, de la considération, quand tu invites à ta table des gens qui ne pensent pas comme toi, même dans un monde qui est de plus en plus polarisé, tu représentes le royaume de Dieu. Quand tu démontres de la paix et de la tranquillité dans des situations stressantes de la vie, dans un monde qui est anxieux. Quand tu invites une personne qui souffre de solitude à partager une partie de ton quotidien, quand tu accompagnes ton nouveau voisin fraîchement arrivé au Canada pour acheter son premier manteau d'hiver, quand tu dénonces ou que tu cherches à rétablir une injustice, quand tu offres de la protection aux plus faibles, quand tu donnes généreusement pour restaurer une communauté après une catastrophe naturelle, dans tout ça, tu représentes le royaume de Dieu. Même quand tu fais bien ton travail, là, au quotidien, à chaque jour, tu contribues à l'épanouissement de la société. Tu représentes le royaume de Dieu. Quand tu joues de la musique, que tu fais de l'art, ou tu t'émerveilles devant la nature, la création avec ton enfant, tu pointes les autres vers la beauté puis la créativité de Dieu. Il y a tellement de manières d'incarner la réconciliation, de pointer les autres vers Dieu, vers ce qu'il fait, vers qui il est, de les pointer vers sa justice, son amour, sa paix, sa justice, sa beauté, son intégrité à tous les jours. C'est Nelson Mandela qui a dit « La paix, c'est pas seulement l'absence de conflit, c'est la création d'un environnement où chacun peut s'épanouir. » Puis en tant qu'ambassadeur de la réconciliation, en tant qu'ambassadeur de la paix de Dieu, je crois vraiment que Dieu veut nous utiliser pour créer des vies qui sont épanouies, des quartiers épanouis, des villes épanouies. Dans un sens, être un ambassadeur de Dieu, c'est un peu comme apprendre à mettre de plus en plus les lunettes du royaume de Dieu. C'est apprendre à voir de plus en plus le monde comme Dieu le voit. Nos vies sont remplies d'opportunités pour être des ambassadeurs de Dieu. Souvent, ça demande juste qu'on mette les lunettes du royaume pour qu'on puisse en prendre conscience, pour pouvoir saisir les opportunités qui sont autour de nous, ou qu'on mette les lunettes du royaume pour voir ce qu'on fait déjà, ce que Dieu nous permet déjà de faire, qui représente son royaume dans nos vies, puis être heureux, se réjouir de la manière dont il nous permet de contribuer. Aussi, c'est important de se souvenir que pour représenter le royaume, on n'est pas tout seul. Premièrement, Dieu nous promet de nous accompagner à tous les jours jusqu'à la fin du monde. On peut avancer avec la confiance que c'est lui qui réconcilie le monde avec lui-même. Ce n'est pas mon rôle de changer ceux qui m'entourent ou de transformer les choses, les gens. C'est celui de Dieu. Je peux juste être un témoin fidèle, un représentant du royaume, mais tout en étant complètement libéré de la performance, des résultats que je pense que je devrais obtenir. Deuxièmement, c'est pas non plus une mission individuelle. Même si on le voulait, là, seul, il n'y a aucun moyen, aucune chance qu'on puisse représenter toute la richesse du caractère puis de l'œuvre de Dieu. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ. C'est quelque chose qui doit être vécu ensemble, avec tes frères et sœurs, en église. On a besoin les uns des autres pour s'encourager, pour s'épauler, pour grandir, pour se montrer nos angles morts, pour profiter de nos différences puis de nos dons respectifs. Cet automne, la nouvelle vision qu'on vous a présentée à l'église, c'est qu'on veut influencer la francophonie et saturer Gatineau de l'Évangile en parole et en action par des chrétiens en mission dans leur milieu. Ici, l'utilisation du terme « dans leur milieu », c'est très intentionnel. Ça communique notre désir de voir l'Évangile transformer notre quotidien. Ça communique notre désir d'apporter l'Évangile ensemble, en parole et en action, mais là où on se trouve déjà, à commencer par notre ville de Gatineau. Ça communique notre désir d'apporter l'Évangile à ceux qui partagent nos vies. Ça nous pousse à nous poser des questions. Par exemple, c'est qui ceux que je côtoie déjà puis pour qui je pourrais être un représentant, un avant-goût du royaume de Dieu? C'est qui les autres chrétiens qui vivent dans le même quartier que moi, qui font le même travail ou qui font une activité quelconque comme du sport avec moi? Comment est-ce qu'on peut être des ambassadeurs de Dieu ensemble? Comment s'aider puis s'encourager dans notre quotidien? Je sais pas si ça se fait encore, là, mais un des beaux exemples que j'ai vu dans les dernières années de ça, c'était un groupe de jeunes adultes de notre église qui fréquentait le cégep de l'Outaouais. Ils avaient réalisé qu'il y avait déjà plusieurs chrétiens à fréquenter le même campus, donc ils ont décidé de manger ensemble une fois par semaine pour bâtir des relations, mais aussi pour prier pour leurs collègues, prier pour leurs professeurs, puis s'encourager à être une bénédiction pour ceux autour d'eux. Parfois aussi, c'était juste une occasion de se présenter leurs amis respectifs, de manger ensemble, de passer du bon temps. Est-ce que ça demandait qu'ils changent leur quotidien? Un peu, mais pas tant que ça non plus. Ils ont surtout mis leur identité de missionnaire puis d'ambassadeur de Dieu en application, ensemble, puis dans leur quotidien, là où ils étaient déjà. J'inviterai maintenant les musiciens à s'avancer. Au 4e siècle, l'Empire romain est encore l'empire dominant dans le monde. Puis Julien, le nouvel empereur qui prend le pouvoir, il est polythéiste. Donc, il est plutôt suspicieux là, à l'égard des chrétiens puis de l'expansion du christianisme dans l'Empire. C'est quand même ironique, mais pour l'empereur Julien, les chrétiens, c'était des athées parce qu'ils refusaient d'adorer tous les dieux romains traditionnels. Dans une lettre écrite à certains de ses officiers, il s'inquiète que les chrétiens y gagnent un peu trop en influence en raison de leur amour puis de leur bienveillance pour leurs prochains. Je vais vous lire un extrait de cette lettre. « Pourquoi n'observons-nous pas que c'est leur bienveillance envers les étrangers, leurs soins apportés aux tombes des défunts et la prétendue sainteté de leur vie qui ont le plus contribué à accroître l'athéisme? Je crois que nous devrions vraiment et véritablement pratiquer chacune de ces vertus, car il est honteux que lorsque les Galiléens impies, les chrétiens ici, soutiennent non seulement leurs propres pauvres, mais aussi les nôtres, tous les hommes constatent que notre peuple manque d'aide de notre part. » Le message de l'Évangile, là, que Dieu aime le monde, c'est un message qui semblait complètement absurde pour le Romain moyen à l'époque. Pour eux, les dieux païens, ils se souciaient très peu ou même pas du tout de l'humanité. Pourtant, le message de l'Évangile est venu les toucher puis il s'est répandu partout dans l'Empire parce que les chrétiens n'ont pas juste parlé de la miséricorde de Dieu, mais ils l'ont démontré par leur vie puis par leurs actions. Pour contrer les chrétiens, l'empereur va même essayer là, quelquefois de lancer lui-même des initiatives pour aider les plus démunis dans l'Empire. Mais à cause du manque de volontaires ou du manque de financement, ces initiatives vont toutes tomber à l'eau. Les chrétiens du 4e siècle ne sont pas différents de nous. C'était des croyants ordinaires, comme toi et moi. Il y avait leur famille, leur travail, leurs activités. Mais ils suivaient aussi l'appel de Jésus à être des ambassadeurs. Ils suivaient l'exemple de Jésus en incarnant la bonté, l'humilité puis le service des autres au quotidien. Avec l'aide du Saint-Esprit, ils ont aimé leur prochain, peu importe c'était qui leur prochain, chrétien ou non. Puis Dieu a utilisé ça pour apporter de la réconciliation dans toutes les sphères de la société. Là où Dieu les avait placés, ils ont pointé les Romains vers ce grand Dieu qui leur offre de devenir des nouvelles créatures puis d'être réconciliés avec lui. Ce matin ou pendant cette dernière semaine de prière pour Libération 21, j'aimerais que tu te poses la question, c'est quoi le prochain pas pour moi? Comment est-ce que je peux développer des habitudes qui vont me permettre de vivre un peu plus mon identité d'ambassadeur de Dieu? Peut-être que tu réalises que c'est difficile pour toi de représenter Jésus parce que dans le fond, tu ne le connais pas tant que ça. Tu pourrais t'engager peut-être même avec d'autres personnes là, dans les prochains mois à découvrir Jésus un peu plus, à le découvrir personnellement puis à approfondir ta relation avec lui. Peut-être que tu voudrais t'engager à plus de moments de silence, plus de moments pour être à l'écoute de ce que Jésus te dit, de ce que l'Esprit te dit, pour pouvoir voir les occasions qu'il met dans ta vie. Par exemple, tu pourrais décider de laisser ton cellulaire dans ta poche pendant que tu prends l'autobus pour le travail, puis prendre le temps de prier pour ceux que tu vas croiser ce jour-là, pour demander à Dieu de te montrer s'il y a des gens en particulier qui voudraient bénir à travers toi. Peut-être que tu es dans une période difficile de ta vie et que tu as surtout besoin d'encouragement. Tu pourrais t'engager à écrire chaque semaine les manières dont tu as vu Dieu t'utiliser pour refléter son royaume autour de toi, puis juste prendre le temps d'être reconnaissant, le remercier pour ce que Dieu fait dans ta vie. Vous pourriez être plusieurs à le faire, puis prendre le temps de partager régulièrement certaines des choses que vous avez écrites dans le but de vous encourager, puis de vous exciter à être des ambassadeurs pour Dieu ensemble. C'est difficile aussi d'être un ambassadeur de Dieu si on est isolé. Peut-être que tu voudrais inviter plus de personnes à partager des moments de ta vie. T'engager à développer des meilleures relations avec tes collègues, tes voisins, les gens que tu côtoies au quotidien. Peut-être même que Dieu te met à cœur de former un groupe dans un de tes milieux ou d'en joindre un qui existe déjà. C'est quoi le prochain pas? Aujourd'hui, pendant la semaine ou même pendant notre soirée de louange qu'on va avoir, de louange et de prière samedi prochain, si tu sens que Dieu te montre quelque chose, je t'encourage à le prendre en note, à l'écrire. Je t'invite à en parler avec Dieu, mais je t'encourage aussi à le partager avec d'autres frères et sœurs. J'invite à le partager ensemble pour vous encourager à aller de l'avant avec ce pas de foi-là. Ésaïe 52,7 « Qui sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, de celui qui apporte de très bonnes nouvelles, qui annonce le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. » Quel privilège Dieu nous donne, quelle vie il nous donne de pouvoir participer non seulement à la... En fait, plus de participer à la construction de notre propre royaume, mais de participer à quelque chose de tellement plus grand, la construction de son royaume à lui. Quel privilège de pouvoir participer au ministère de la réconciliation. Laissez-moi terminer en priant pour nous. Seigneur, merci pour ta grâce envers nous. Merci parce que c'est une bonne nouvelle d'annoncer ton règne. Annoncer ton règne, c'est pas annoncer une condamnation, c'est pas annoncer que tu cherches à nous détruire, mais au contraire, c'est annoncer que tu es venu te réconcilier avec nous, que tu es venu nous restaurer. Seigneur, merci de m'avoir réconcilié avec toi. Merci d'avoir initié, payé, puis accompli tout ce qui était nécessaire pour que je puisse devenir une nouvelle créature. Aide-moi à me souvenir que tout vient de toi. Alors qu'on avait besoin et qu'on a encore besoin de la réconciliation dans ma vie, tu me donnes le privilège de devenir un réconciliateur avec toi. Seigneur, merci qu'on peut participer au ministère de la réconciliation. Merci qu'on peut distribuer cet appel de l'Évangile autour de nous en parole et en action. Que ton règne vienne, Seigneur. Que de plus en plus de personnes puissent goûter à cette paix avec toi. Que ton règne vienne, puis en premier dans ma vie. Donne-moi tes yeux pour que je puisse voir de plus en plus le monde qui m'entoure comme toi tu le vois. Enlève mon orgueil pour que je puisse voir comment tu veux continuer de me restaurer et comment tu veux que je grandisse. Enlève mon égoïsme pour que je puisse voir les occasions que tu places devant moi pour représenter ton royaume. Aide-nous à prendre le prochain pas que tu places devant nous, par la foi et pour ta gloire. Amen.